Vous êtes bien sur RVM, ne quittez pas.
Bienvenue dans l'économie pour tous, l'émission consacrée à l'explication des grands phénomènes économiques et sociaux contemporains à travers l'actualité, par Renaud Chartoir, professeur de sciences économiques et sociales, et son complice Éric Carlier. Bonjour Renaud.
Bonjour Éric.
Renaud, encore une fois, malheureusement, je crois qu'il faut annoncer à nos auditeurs que tu es toujours un peu malade. Et cette saison, cette neuvième saison de l'économie pour tous, t'auras connu dans un état malheureusement pas optimal. Et bon, on va rassurer nos auditeurs en disant que tu n'as rien de grave, mais tu as quelque chose de persistant.
Non, non.
Tu as une toux constante et une voix éraillée qui ne nous a pas quittés depuis des semaines.
Eh bien, c'est ça, exactement. Et donc, vous allez encore avoir le bonheur de m'entendre tousser aujourd'hui. Alors, selon mon médecin, ce serait la coqueluche que j'aurais attrapée. Mais en fait, on ne peut pas le vérifier, puisque comme ça fait plus de 5 semaines que je tousse, on ne peut tester la coqueluche que sur les 3 premières semaines de toux. Donc, ça restera un mystère. Mais
vois le côté positif des choses, Renaud. La coqueluche est une maladie infantile, ce qui montre que tu es resté très jeune.
Exactement. Et puis, je n'oublie pas qu'il y a 2 ans, à 50 ans et 6 jours, j'ai eu l'appendicite. Donc, c'est du même acabit, tu vois, finalement. Voilà. J'enchaîne, passé 50 ans,
alors,
les maladies de jeunesse.
Méfie-toi, bientôt, tes dents de sagesse vont pousser, ça risque de faire mal.
Ouais, alors ça, non, c'est bon.
Bon, Renaud, la dernière fois, on était resté sur des constats qui nous approchent peu à peu de la conclusion de cette saison. Et j'étais resté sur une question, puisque tu nous avais évoqué la nécessité d'une transformation de l'économie en vue de la sauvegarde de la planète. Et donc, je t'avais demandé, est-ce que la décroissance est un modèle économique viable ? Tu m'as dit que tu apporterais un début de réponse dans cette émission. Alors, je suis maintenant tout oui.
Exactement, Eric. D'abord, j'aimerais quand même, puisque nous enregistrons avec un léger décalage par rapport à notre diffusion sur RVM. Il y a la COP27 en ce moment, et sous l'égide de l'ONU, et il a été rendu public hier que toutes les études montrent qu'on ne respecte pas les accords de Paris. Les accords de Paris qui, je le répète, avaient pour objectif de limiter la hausse des températures à l'échelle du globe à l'horizon 2050 à plus 1,5 degré. Mmh. Et là, on est plutôt parti sur une direction de plus 2,5 degrés. Donc, c'est catastrophique.
Absolument.
Et cette catastrophe, forcément, elle doit nous amener, une fois de plus, à nous interroger. Alors, avec la Covid et les 2 mois de confinement, on a à un moment pu penser que nous partions vers un autre monde. Bon, manifestement, nous n'y sommes pas, dans cet autre monde. Mais par contre, il va bien falloir qu'à un moment, on se décide à y aller. Et si tu me demandes si la décroissance est viable, moi, je te dirais que je te poserai la question inverse. Est-ce que maintenir l'existence, c'est viable ? La réponse, clairement, elle est négative.
Ah oui, mais alors là-dessus, Renaud, je te renvoie à une série d'émissions que nous avions fait il y a pas mal de temps, ça, je dirais 10-15 ans, et on avait évoqué les théories de la décroissance dans un cadre beaucoup plus large, hein, qui étaient les différentes théories économiques qui existent au-delà du capitalisme. Tu m'avais dit à l'époque, je me souviens très bien, que la décroissance était un courant minoritaire et qu'il semblait peu probable qu'un jour on se dirige vers cette option.
Exactement. J'ai pu dire ça il y a 15 ans. Parce qu'effectivement, il y a 15 ans, la question de la décroissance était exotique en sciences économiques. Pour une raison simple, c'est que la science économique, elle est apparue en gros au 19e siècle, hein, pour aller à l'essentiel. Et depuis 2 siècles, on a demandé aux économistes, à tous les gouvernements des différents pays du monde, n'ont demandé aux économistes qu'une seule chose. Comment on fait pour s'enrichir, pour lutter contre la pauvreté, pour faire en sorte qu'on produise toujours plus? Et donc, les économistes, pendant 2 siècles, ils ont développé un arsenal d'outils, de mécanismes, de théories qui allaient dans cet objectif-là, dans cet unique objectif. Croître, accumuler. Pourquoi? Parce que tout simplement, la question écologique ne se posait pas, ou se posait peu, ou se posait dans des milieux qui étaient absolument pas influents. Donc, effectivement, cette question semblait réservée à quelques doux rêveurs. Et je ne nie pas qu'il y a 15 ans de ça, si on me posait la question, moi-même, finalement, je voyais ça d'un œil un peu mi-amusé, mi-distant,
et surtout très sceptique.
Réduisant ça à quelques... Oui, c'est ça, réduisant ça à quelques jamais contents, alternatifs, à toujours... Et il faut admettre, 15 ans après, que je me suis trompé, qu'on est nombreux à s'être trompés. Mais simplement parce qu'à un moment donné aussi, ce que nous pensons, est aussi le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Et lorsqu'effectivement on est socialisé, on est développé dans une société qui nous évalue, qui nous compare, qui nous donne une valeur par rapport à une référence, et en l'occurrence cette référence c'est croître, produire, avoir le pouvoir d'achat le plus élevé, bah forcément nos pensées, alors c'est ce que Marx appelait le matérialisme dialectique, à savoir que finalement nos pensées sont un peu aussi le produit du monde dans lequel nous vivons. Et donc ce monde est en train de changer grâce aux connaissances scientifiques que l'on a accumulées effectivement sur l'impact négatif de l'activité économique sur l'environnement et sur son côté insoutenable à long terme. Donc forcément, à un moment donné, il faut admettre que ce qui nous est apparu vrai pendant des décennies, eh bien, était sans doute vrai à l'époque, mais ne peut plus être considéré comme tel aujourd'hui.
D'accord. Néanmoins, cette théorie ne va pas de soi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle s'imposerait plus ou moins aujourd'hui qu'il va être facile de la mettre en place. On le voit bien, il y a énormément de résistance encore à l'application de la décroissance, voire même de la sobriété.
Oui. Alors, deux choses à ce sujet. La première, pour relier notre série d'émissions sur l'inflation. Je repense qu'on a dit un peu dans la première émission, finalement, ça nous fait un peu une boucle. Le Covid, pendant 2 mois, nous a montré à quoi pouvait ressembler un monde dans lequel, effectivement, nous consommerions moins, nous produirions moins. Alors évidemment, ce qui a existé à l'époque pendant 2 mois n'a été possible que parce que l'État s'est très fortement endetté. Et donc en fait, ce n'était pas un nouveau modèle que l'on mettait en place qui serait viable à long terme. Mais en tout cas, ça nous a quand même mis pour la première fois le doigt sur la possibilité d'un autre monde. L'inflation que nous connaissons en ce moment, moi je suis très impressionné. Moi c'est la première fois que j'entends l'État dire oui, il va falloir qu'on limite le chauffage dans les espaces publics. Oui, il va falloir qu'on fasse preuve de plus de sobriété. Finalement, ça devrait être une évidence, mais ça ne l'était pas. Donc cette inflation aussi, peut-être même si elle est en partie conjoncturelle, tu l'as très bien dit la semaine dernière, Eric, parce qu'elle est liée à la guerre en Ukraine. Alors cela dit, la guerre en Ukraine, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Donc, mais bon, on peut espérer que ce soit un événement que conjoncturel. Mais malgré tout, tu vois, c'est une deuxième couche qui est remise pour nous montrer qu'il est possible, si ce n'est de changer radicalement de comportement une société, on n'est peut-être pas encore prêt pour ça, mais en tout cas de commencer à explorer un autre chemin.
D'accord, mais dans ce cas-là, on peut s'imaginer qu'il y ait des effets collatéraux, non ?
Alors, c'est de cela dont nous allons continuer à parler. Mais juste avant, deuxième aspect de la question que tu me dis, ou que tu m'avais posé comme question, finalement, la décroissance, est-ce que c'est pas une pure utopie ? Alors, en fait, ça dépend ce qu'on appelle la décroissance. Il y a, j'ai envie de te dire, autant d'approches de la décroissance qu'il y a d'approches du capitalisme. Si effectivement la décroissance, c'est on retourne au Moyen-Âge, là non, sans doute que ça fonctionnera pas. Enfin, en tout cas, on a du mal à imaginer que on puisse collectivement avoir envie de ne plus être soigné, d'avoir une espérance de vie qui redescend à 40 ans. Bon, donc cette décroissance-là, oui, elle peut faire rêver quelques 12 utopistes qui vont retourner vivre dans le Larzac, mais ça peut pas, enfin, en tout cas, a priori, ça peut pas être un modèle de société. La décroissance, on peut aussi la voir autrement. On peut la voir, et t'as employé le terme qu'il faut, et c'est ce terme qu'il faut mettre en avant, la sobriété. La décroissance, ça peut aussi simplement être, à chaque moment de notre vie, se poser cette question-là. Est-ce que réellement on a besoin de ça ? Est-ce que réellement, au moment où je suis devant un étalage, un magasin, j'ai réellement besoin de m'acheter une troisième paire de chaussures ?
C'est drôle que tu dises ça dans ces termes-là, parce que c'est exactement rigoureusement ce par quoi tu avais conclu notre précédente saison lors du confinement.
Eh bien écoute Eric, il faut croire qu'il y a une certaine cohérence dans mes propos. Donc...
Malgré tout.
malgré tout, voilà, à 15 ans d'intervalle. Bon, et voilà, et en fait, si déjà, et je trouve, tu vois, par exemple, cette question du est-ce que vraiment on a besoin de 22 degrés dans les espaces publics, ben c'est déjà ça, c'est le chemin, il passe par là. Et si on rentre sur ce chemin de la sobriété, les dominos, ils vont tomber un par un derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va être de moins en moins difficile de faire des efforts dans ce sens. Moi, par exemple, c'est bête aussi, mais je pense que tout ce qui est illimité contribue à nous éloigner de la sobriété. Tu vois, Internet en illimité, les SMS en illimité.
Oui, d'accord, ce serait bien tout ça, Renaud, mais je te rappelle ai-je besoin de te rappeler que nous sommes dans un système économique qui repose sur la notion de profit, et l'accumulation d'énormes richesses par une minorité fait qu'aujourd'hui, si on remet en question ce modèle-là, ce système va se casser la figure, on est bien d'accord. C'est finalement la surconsommation qui favorise l'émergence de ces énormes richesses.
Oui, mais justement, comme la surconsommation est un problème et qu'il faut lutter contre, eh bien, il faut commencer à explorer d'autres alternatives qui, effectivement, vont passer par le fait que cette accumulation de richesses doit être moins importante, mais sans pour autant se traduire par un accroissement de la pauvreté. Donc, en fait, se repose la question du partage des richesses. Et là, on en revient aussi sur ce qu'on a dit à la dernière émission. En fait, cette inflation, alors d'ailleurs, comme je dis, on enregistre avec un petit peu de décalage avec les diffusions, mais là, hier, ils ont annoncé que sur les 12 derniers mois, c'était même 6,2% en fait, en France. Cette inflation, en fait, déjà, elle touche relativement plus les bas revenus que les hauts revenus. Pour deux raisons. D'abord, parce que les hauts revenus relativement consomment moins leurs revenus que les bas revenus. Les bas revenus consomment l'intégralité de leurs revenus. Donc, quand les prix augmentent de 6,2%, c'est une ponction de 6,2% sur leur pouvoir d'achat. Alors que si les hauts revenus ne consomment que 30 ou 40% de leurs revenus, par exemple, eh bien, cette ponction ne se porte que sur un tiers, en fait, de leurs revenus. Et la deuxième chose, c'est qu'en plus, ce sont plutôt les bas revenus qui ont le moins de possibilités actuellement de pouvoir faire les économies, les efforts qui sont nécessaires pour pouvoir justement moins subir l'inflation. Donc la conséquence de tout ça, c'est que si on veut aller vers moins de consommation, il faut aussi prendre en compte le fait qu'actuellement les richesses sont réparties de manière inégalitaire, et pas uniquement de manière inégalitaire, de manière de plus en plus inégalitaire. C'est ça l'objet. Moi, quand parfois j'entends certains économistes nous dire on peut pas mettre une taxe sur les super profits, ou on peut pas mettre une taxe, on peut pas revenir à l'ISF parce que sinon on aurait vraiment une taxation des riches qui serait insupportable. Je rappelle que cette taxation, elle a diminué quand même depuis 30 ans. Donc augmenter la taxation, ça pourrait être simplement revenir à la situation qui a existé il y a quelques décennies. Je rappelle qu'aux États-Unis, dans les années 30, la taxation sur les revenus supérieurs à 1 million de dollars était de 90%. Les riches payaient, au-delà de 1 million de dollars de revenus annuels, 90% de la somme correspondante sous forme d'impôt sur le revenu. Et pourtant, j'ai pas connaissance que les États-Unis étaient considérés comme un pays communiste, ou que les États-Unis ont connu une croissance faible, ou que les États-Unis sont aujourd'hui un pays pauvre. Donc, on est rentré depuis la fin des années 70, effectivement, dans une nouvelle ère du capitalisme beaucoup plus dérégulée, où les inégalités ont explosé, où la concurrence fiscale entre les États les a amenés à multiplier les niches fiscales, à réduire la taxation sur les bénéfices, sur les dividendes, etc., du fait de la concurrence internationale. Mais c'est pas une fatalité. Il est tout à fait possible de changer ce système. Après, effectivement, c'est la question d'une volonté. Et pour en revenir à ta question d'origine, on peut effectivement globalement consommer moins, ce qui va générer moins de profits, mais ça ne va pas forcément se traduire par plus de pauvreté. Simplement, c'est une question de répartition, richesse globale.
Ça n'est pas du tout ce que je disais. Ce que je disais surtout, c'est que le système actuel profitant à une minorité très puissante, il va y avoir des résistances qui vont venir non pas du bas, mais du haut.
Ah oui, ah bah des résistances, évidemment qu'il y aura des résistances. Ah oui, non, ah bah d'accord, j'avais pas compris dans ce sens-là. Évidemment, dans tout ce système que tu fais évoluer, où les grands gagnants vont être un petit peu moins gagnants, effectivement, que ces grands gagnants ne vont pas être satisfaits, mais c'est la question de l'intérêt général. Une fois de plus, moi, que Bernard Arnault voit sa fortune se réduire de quelques milliards d'euros, je ne vais pas pleurer toutes les larmes de mon corps plusieurs nuits d'affilée. Parce que on n'est pas chez Mao Tse-Tung. L'idée, c'est pas non plus de dire aux individus qui sont à l'origine, effectivement, aussi, hein, indirectement, des créations d'emplois, de la création de richesses, du fait que l'État peut prélever ses richesses en partie et grâce à ça, mettre en place un modèle social, un système de santé. Donc, on a aussi besoin d'une activité économique, bien évidemment. Et donc, on a sans doute besoin, alors je ne sais pas si on a besoin de Bernard Arnault, mais en tout cas, on a sans doute besoin, d'entrepreneurs et qui doivent être récompensés pour ça. Mais après tout, zut, quoi. Peut-être qu'il y a des mesures dans toute chose. Peut-être que gagner l'équivalent de 40 années de SMIC en un mois, bah, peut-être que ça peut interroger, et même les personnes en question, se dire... Est-ce que vraiment ça a un sens, tout ça? Moi, je rappelle juste un point, c'est que nous n'avons, et les personnes en question sont dans ce cas-là, nous n'avons aucune mesure objective de l'apport productif individuel de chaque élément d'une structure productive. C'est-à-dire que le PDG d'une entreprise du CAC 40 qui gagne 7 millions d'euros par an, en fait, on n'a aucune mesure objective pour dire « oui, c'est vrai ». Par son travail pendant l'année, il a rapporté 7 millions d'euros à l'entreprise. Auquel cas, on pourrait justifier qu'il gagne 7 millions. Moi, j'ai aucun souci. Hein, quelqu'un qui apporte plus, c'est normal qu'il soit mieux rémunéré. Mais on ne sait pas en quoi son travail... Donc, ça reste des conventions sociales. Et ces conventions, elles peuvent évidemment être remises en question.
Oui, alors toi, tu parles de l'apport de ces gros salaires à l'entreprise, mais on ferait peut-être mieux de mesurer l'apport du travail fourni par ces personnes à la société et à l'humanité dans son ensemble. Est-ce que finalement, par son travail, cette personne n'a pas aussi contribué à détruire l'environnement dans lequel nous vivons et à dégrader notre espérance de vie? Ça peut se poser aussi dans ces termes-là.
Exactement, Eric. Et d'ailleurs, comme je vois que le temps tourne, moi, j'aimerais bien rebondir sur cette question-là et ça pourrait être l'objet de l'émission de la semaine prochaine, par exemple. Parce qu'effectivement, pour l'instant, nous sommes dans un modèle dont la convention est que on est censé justifier les différences de revenus par l'apport productif qu'on a réalisé au sein de l'entreprise. Mais on pourrait aussi développer une autre approche qui est celle qu'on appelle de la stakeholder theory, et je te propose d'en reparler la semaine prochaine, qui consiste à dire qu'effectivement, il faut élargir cela et regarder quel est notre rapport, en fait, plus fondamental au fonctionnement de la société. Et là, ça pourrait faire quelques petites surprises dans l'évolution des inégalités de rémunération.
Eh bien, écoute, en démarrant cette émission, Renaud, on ne savait pas si elle serait la dernière ou pas, et finalement, elle ne l'est pas. Il va nous rester encore une émission au cours de laquelle nous allons traiter ce que tu viens d'évoquer, et je suis très content d'avoir amené le sujet, parce que finalement, je ne sais pas s'il était prévu à la base.
Non, donc, et puis ça va me permettre d'avoir le plaisir de continuer à tousser une émission de plus, donc
dans c'est très bien. Très bien, alors merci de faire profiter
merci beaucoup, Eric.
De cette coqueluche, Renaud, et je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Eric. Au revoir.
Au revoir.
Sur Radio Valois-Mulcien, vous venez d'écouter L'économie pour tous par Eric Carlier et Renaud Chartois.